Mais je préfère être debout, comme ça je vous vois mieux. Bon, je ne vais certainement pas faire une conclusion, mais je vais vous proposer quelques remarques. Hein. Je ne vais pas commenter non plus les différentes interventions, mais faire bon part plutôt de penser, enfin de penser c'est beaucoup dire, de choses que ça m'a mis dans ma tête, des thèmes et des questions. Alors d'abord, évidemment, je reprenais le terme de geste, le geste d'archiver, de sauvegarder, de lutter contre l'effacement. Le geste qui est ou individuel ou collectif, mais dans les deux cas, il semble que l'objectif partagé, c'est de contribuer évidemment à la sauvegarde, mais aussi, il me semble, dans tout ce qui a été présenté, à une tentative de décolonisation des savoirs, de décolonisation de ce qui est, de ce qu'on a, des récits ou de ce qu'on nous a jusqu'à présent enseigné. Ce qui me faisait penser justement donc à la différence entre l'archive coloniale et l'archive décoloniale, et qu'est-ce qui ferait qu'une archive devient décoloniale, qu'est-ce qui ferait, est-ce que c'est parce qu'elle interroge l'archive coloniale, ou est-ce que aussi c'est parce aussi pas c'est pas opposé, elle peut faire les deux, celle qui contribue justement à construire une autre idée de l'archive, une autre idée de ce qui est à sauvegarder. Donc ça, c'était une première chose. La deuxième chose, revenir évidemment sur la question de l'archive, qui est aussi traduction, qui est un geste de traduction, de déchiffrement, à travers lequel on va déchiffrer d'autres choses, et qui est là aussi pour soutenir la mémoire. Donc, mais alors je pensais justement à la temporalité que ça implique, parce que plusieurs interventions aujourd'hui ont été autour de ça, c'est-à-dire l'économie, je veux dire, comment sauvegarder. Alors c'est toute une économie, particulièrement quand on a parlé des photos en Afrique, de convaincre les personnes qui détiennent ces archives, d'élaborer des conventions, de numériser, donc c'est tout un temps qui s'étire, enfin un temps nécessaire, et qui est continuellement confronté à une autre économie du temps, qui est le temps, l'économie de la vitesse aujourd'hui, qui est de plus en plus rapide avec les nouvelles technologies, et la capacité justement d'autres, de grandes multinationales, des big data, d'arriver et de tout absorber avec une plus grande rapidité. Donc ces deux temporalités dans lesquelles nous sommes pris, et... Comment travailler ça, c'est-à-dire le temps du néolibéralisme et des nouvelles technologies, et le temps dont nous avons besoin pour à la fois contrecarrer cette économie aujourd'hui, puisqu'elle impose aussi des archives, elle impose une manière de voir, elle impose une manière de penser, et il faut continuer à absorber ce qu'on n'a pas dit, c'est-à-dire le rendre visible. Donc on est là à travailler avec tout le passé et à courir derrière le futur qui s'annonce et qui est fait par d'autres. Donc comment réimaginer le futur, comment réapproprier l'idée du futur à partir de cette archive, c'est-à-dire d'inventer une autre idée du futur que celle qui est proposée aujourd'hui par l'économie néolibérale et les nouvelles technologies qui nous proposent absolument une idée du futur. Je veux dire, tous les trucs futuristes, maintenant on va aller sur Mars et on va conquérir, je ne sais pas, Jupiter, je ne sais quelle planète, etc. On va vivre là-bas. Donc comment se réapproprier la question du futur? C'est quoi le futur? Imaginer le futur. Donc je pensais, il y avait Ursula Le Guin d'ailleurs qui invitait les auteurs de science-fiction à réécrire des science-fictions pour contrer le néolibéralisme, c'est-à-dire à proposer de nouvelles utopies futuristes qui nous permettraient d'imaginer un autre moment que celui qui nous est le futur qui nous est proposé. Il a été aussi souvent question de silence, et je me disais, bon, bah, effectivement, comment il est fabriqué, comment il est perpétué, est-ce qu'on fait une différence entre silence et oubli, est-ce que finalement silence et oubli sont un peu les mêmes choses dans ce dont nous parlons, là, l'insurrection des Mao-Mao, le fameux oubli d'archives par les Anglais, de tout un tas de choses qui étaient finalement là. Donc comment ça se travaille, cette question de silence et d'oubli, et comment se fabrique le consentement au silence? Comment on fait du silence? Alors je me disais, il y avait quand même plusieurs choses, parce que parfois on peut rester silencieux pour sauver sa peau, parce que je veux dire, il faut aussi, dans des situations de terreur d'État, c'est pas en clamant quelque chose qu'on va finalement se faire entendre. Donc il faut quand même peut-être préciser chaque fois ce qu'on entend quand on parle de silence, parce qu'on dit toujours briser le silence, mais c'est comme si la situation était toujours, on avait toujours l'impression qu'on vit dans les démocraties occidentales et qu'on va pouvoir briser le silence tranquillement sans se recevoir un coup sur la tête, sans qu'il y ait des menaces, des risques à briser le silence. Donc je trouve qu'on devrait un peu contextualiser utiliser quand on parle de silence. Il y a des moments. Et est-ce que le silence il est produit par l'indifférence, par l'ignorance ou par la volonté de faire silence? C'est pas tout à fait la même chose. Donc, je pensais aussi au silence comme une stratégie. On n'a pas envie de tout montrer, on n'a pas envie de tout dire. On veut rester silencieux. Il n'y a pas de raison de tout dire. Peut-être c'est une manière de résister à l'injonction il faut tout savoir, tout doit être transparent, tout doit être accessible, il y a un savoir universel, il y a une histoire universelle et tout le monde devrait y participer. Ben non, finalement non. Il faut peut-être se protéger, protéger aussi des savoirs. Il y a beaucoup de situations aujourd'hui où il y a des protections de savoirs parce que justement, ils sont les savoirs vernaculaires, ce qu'on appelle traditionnels, et qui sont extrêmement menacés, mais même aussi des archives, comme on l'a vu. Donc, comment... Et puis, je pensais toujours avec cette histoire de silence qu'évidemment, la stratégie, beaucoup d'une stratégie des opprimés, que ce soit les femmes, les prolétaires, les colonisés, les gays, ça a été de demander une reconnaissance d'une histoire, une reconnaissance de ses images, de son iconographie. Alors, ça a été extrêmement important. Ça fait connaître des choses qu'on ne connaissait pas, ça fait apparaître des choses, tu le montrais encore, là, c'est extrêmement important, c'est absolument fondamental. Mais je me demandais comment, en même temps, faire en sorte que cette stratégie ne rentre pas dans l'éthique occidentale de l'ajout et de l'addition qui vont faire qu'à un moment donné, on va arriver à un récit réconcilié. On va tous se réconcilier, on sera tous gentils les uns avec les autres, et qu'il suffit donc d'élargir le champ de la reconnaissance, mais sans tenir compte des frictions, des contradictions et des conflits d'intérêts. Nous n'avons pas tous, enfin tous, quand je dis nous tous, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts, donc c'est pas, on ne va pas être dans une espèce d'espace où finalement chacun aura son histoire et on aura un jour une réconciliation, toutes les archives seront égales. Non, il y a une hiérarchie à faire, une hiérarchie qui n'est pas nécessairement une hiérarchie d'effacement, mais une hiérarchie, c'est selon évidemment les idées qu'on a. Je veux dire, est-ce que on travaille pour plus de justice sociale, de liberté et d'égalité, ou simplement, effectivement, pour élargir le champ des archives? Donc, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Donc, je voulais poser un peu cette question. Je me demandais s'il y avait un genre de l'archive. Est-ce qu'il y a un gender? Est-ce que dans ce qui est montré et de comment c'est montré? Alors du coup, ce qui m'a intéressé, c'est ce que tu disais à la fin, c'est quel est le rôle des femmes, le rôle des femmes rendues invisibles dans la protection, la sauvegarde, et notamment parce que c'est souvent elles qui sont les héritières de ce qu'a laissé le mari, qui lui avait un nom, une chose. Donc il y a peut-être un genre, un gender. Je pensais aussi à une autre chose, c'est l'image coloniale. Alors l'image coloniale dont on parle quand même beaucoup et qui parfois devient un fait accompli, c'est-à-dire c'est comme si c'était une source infinie, c'est une source infinie d'ailleurs parce qu'on n'en a jamais fini et puis c'est toujours stupéfiant de voir ce qui s'est fait, de ce qui s'est montré et donc on aurait le droit de puiser sans se poser de questions. Et de les utiliser en même alors que ça se nourrit, ces images-là, cette iconographie se nourrit justement de la répétition, de la montrer, de la remontrer. Donc, comment résister à... Je comprends l'importance de montrer les images coloniales, mais comment résister à ce fait même qui fait que certains artistes, on le sait, du Nord, justement, utilisent ces sources pour, même par exemple, dans la mode, dans le design, partout. Une source extraordinaire d'iconographie et d'images. Et donc, quelle est notre réponse à ça? Je pense à la solitude de l'archiviste, particulièrement après avoir vu, évidemment, ce film sur Safia Kouari. Et je trouvais que c'était très important, ça, de penser à la solitude de l'archiviste. Il y a des archivistes solitaires et isolés et dans la solitude partout dans le monde. Donc, cette question, parce que... Toutes les archives ne sont pas évidemment traitées de la même manière, ni simplement par les personnes même qui les détiennent, donc dans un cercle très intime, ni par l'État, ni par le gouvernement, ni dans le lieu où on vit. Donc il y a aussi des contextes. Je veux dire, toute l'archive n'est pas en elle-même, ou le détenteur de l'archive n'est pas. Ce n'est pas tout est donné de la même manière. Il y a des gens aussi qui veulent détruire, c'est vrai, pour des raisons familiales parfois. quelle est notre réponse, nous chercheurs, à ça? C'est-à-dire on arrache là quand même l'archive en disant c'est important pour le monde, les générations futures, et qu'on entre en conflit avec des réponses personnelles, familiales, dont on ne connaît pas toujours nécessairement les tenants, les aboutissants, mais où parfois on ne veut pas. On ne veut pas que l'archive... Et ça, il y a quand même beaucoup de cas comme ça. Donc ça pose cette question, parce que j'ai l'impression parfois qu'on montre ça comme si c'était assez harmonieux. Bon, il y avait simplement quelques méchants quelque part, là, souvent plutôt en Occident. Et que si vraiment ces méchants, on arrivait à les convaincre ou à leur mettre un coup sur la tête, tout se passerait bien. Je pense que le terrain est beaucoup plus conflictuel et contradictoire. Alors, je pensais aussi à l'archive comme histoire contre-hégémonique. Et là, ça fait retour à la question de la mémoire. Et quelqu'un, je crois, a parlé de l'émergence de musées communautaires. Et donc, et je pensais archive, mémoire, musée, en ce moment, ce triptyque, qui joue un rôle très important dans les Suds, ou chez les opprimés, les damnés de la terre, enfin, comme vous voulez les appeler. C'est-à-dire, malgré tout, une réappropriation de ces trois notions, qui sont des notions très, 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 on le sait, ça a été dit, occidentales, etc. Mais qui sont, qu'on les croise d'ailleurs, il y a les choses, et qui sont donc réappropriées dans un processus de nouvelles formes d'écriture. On va écrire autrement, on va penser autrement, on va le dire autrement. Alors évidemment, la mémoire, de dépasser l'opposition histoire-mémoire, qui est très, très forte, on le sait particulièrement, alors on le sait en France, c'est très, très fort, la mémoire serait subjective, l'histoire serait objective, enfin, toutes ces choses dont qu'on a beaucoup entendu ces dernières années. Et en fait, la mémoire se propose beaucoup aujourd'hui, enfin, beaucoup de personnes, de groupes, de minorités utilisent le terme de mémoire et en fait parlent d'histoire. Mais c'est comme si dire mémoire, justement, signifiait déjà une autre manière d'écrire l'histoire. Parce que si, histoire est devenue tellement associée à la construction de la nation, à la construction de l'État, à la construction d'identité nationale, dite nationale, etc., qu'on se dit, mais en disant mémoire, on va échapper à ça. Et donc, finalement, il faut prendre aussi cette question de mémoire, dont on sait qu'elle peut être manipulée, instrumentalisée, etc., mais de la prendre peut-être comme une proposition d'autre écriture aujourd'hui, avec beaucoup plus une multiplicité de voix, beaucoup plus donc difficile... à transformer en un récit. Et ça, c'est vrai que c'est une difficulté à laquelle nous sommes tous confrontés. Moi, je n'ai pas de réponse à ça, mais c'est vrai que quand on croise des histoires, on croise des mémoires, on n'a pas nécessairement un récit. On n'a pas nécessairement un récit qui fait qu'on peut donner. Je vais vous donner juste un exemple, là, parce que sinon, vous allez entendre dire que je suis en train de divaguer. J'ai organisé plusieurs fois là, ce que j'ai appelé « histoire-mémoire croisée ». Et je faisais, et alors c'était des chapitres, ce que j'appelais des chapitres oubliés, et ça pouvait être autant, alors je vais vous parler d'un qui était, dont je me souviens par exemple, ça pouvait être autant, chaque personne avait 10 minutes, c'était des artistes, des chercheurs ou des personnes d'associations qui avaient travaillé sur ces histoires. Alors un de ces moments, de ces rencontres, parce que c'était pas vraiment des conférences, donc chaque personne avait 10 minutes, pas plus, c'était hop, le truc tombait. Et pour qu'on apprenne à dire exactement 10 minutes ce qui était important. Alors, par exemple, il y a eu un moment, c'était autant les essais nucléaires dans le Pacifique, la spoliation des Français juifs sous le régime de Vichy, l'assassinat de 7 jeunes Algériens le 14 juillet 1956, place de la Nation, le patrimoine musical des Algériens migrants dans les années 60, les Indochinois et travailleurs indochinois pendant la Seconde Guerre mondiale. Des chapitres qui n'avaient apparemment rien à voir les uns avec les autres, c'était pas les mêmes acteurs, c'était parfois pas le même temps. Il y avait aussi les Kanaks, l'insurrection de 1878, la question justement des restes humains dans les musées, puisqu'il y avait eu la tête d'Ataï qui était le chef kanak de l'insurrection kanak qui a été décapité, dont la tête avait été envoyée au musée de l'homme pendant des années et qu'on a juste renvoyé en Nouvelle-Calédonie récemment. Donc ce que je veux dire, c'était en mettant, en croisant ces chapitres, c'était pas que ça donnait à la fin un récit complet, cohérent, c'était de montrer que tous ces morceaux qui étaient justement cette hétérogénéité, quand même traçaient des itinéraires, des circulations, d'idées, d'aspirations, en général, la liberté, l'égalité, la lutte contre l'oppression, Et ça, ça traçait, c'était ça les itinéraires, c'était ça le commun. Le commun n'était pas la même histoire, le commun c'était ça. C'était l'aspiration à la liberté, la justice, l'égalité. Donc c'était de montrer, là, c'était donc une autre... Donc c'était pas la construction de la nation, ou je sais pas quoi, c'était, voilà, c'était les, comment, ça, à des moments complètement différents, des personnes différentes, parlant des langues différentes, ayant des croyances différentes, enfin, n'ayant rien à voir les uns avec les autres, se retrouver autour de ces idées. Donc, est-ce comment ces idées circulaient et étaient réappropriées et retraduites ? Donc, oui, oui, j'ai fait au Sénat, oui. Un endroit, oui, oui. Oui, ils n'ont rien dit, d'ailleurs. C'était au cœur de, oui, il faut, quand on peut, frapper au cœur. Quand on ne peut pas, on se met de côté. Mais, donc, je pensais à l'espace de l'écriture, justement, cet espace de l'écriture. Quel est l'espace de l'écriture de l'archive ? Quel est l'espace de l'archive de tout ce qu'on a vu aujourd'hui ? C'est-à-dire, bon, ça ne s'adresse pas à la nation. Il ne s'agit pas de reconstruire la nation. Et il ne s'agit pas non plus de reconstruire des territoires fantasmés ou des territoires de minorités. Donc, quel est cet espace ? Quel est quand même l'espace de cette écriture ? Et puis, ben, comment penser, justement, je pensais à cette phrase de Fanon, la décolonisation est un processus historique, c'est-à-dire donc ce n'est pas un moment, c'est un processus. Et je dois conclure, c'est ça. Hein. Comment penser, justement, ce processus aujourd'hui, dans le moment que nous vivons aujourd'hui ? Donc comment tout ce que vous faites contribue à cette décolonisation ? À ce processus de décolonisation, donc pas de décolonisation comme un moment, comme une rupture, mais comme un processus. Et donc, ça, je vais revenir là-dessus, parce que on a parlé un peu de ces images au mur, en disant, bon, oui, enfin, quand même, c'est quand même un peu figé, puis il n'y a pas beaucoup de femmes. Bon, d'accord, mais c'est quand même aussi, est-ce qu'on ne peut pas leur redonner aussi leur puissance d'évocation ? C'est que quand même, un jour, ces gens, ils ont dit qu'ils ont été indépendants. Ils avaient fichu dehors les Belges, les Anglais, les Français. Il y a quand même un moment auquel il faut redonner sa puissance d'évocation. On ne peut pas être con, ça. Je veux dire, il y a une puissance d'évocation, ces personnes se montrent au monde. Voilà qui nous sommes. Nous sommes aujourd'hui des Sénégalais, nous sommes aujourd'hui des Algériens. Demain, nous serons des Martiniquais et des Réunionnais. Aujourd'hui, pas encore, mais nous le serons. C'est-à-dire s'il y a quand même un moment d'affirmation, je ne pense pas qu'il faille comme ça le balayer en disant oui, ben alors ça reconstruit l'État, etc., la nation. Oui, bon, ben c'est... Donc comment redonner aussi quand même de là ? On parle de l'imitation, sans doute, mais c'est aussi une réappropriation. Et je pensais justement, puisque cette année on va fêter l'anniversaire de Bandung, de la conférence de Bandung. Bandung, c'est une présentation de soi au monde. C'est vraiment une présentation, et notamment par la manière de s'habiller. Et ça, c'est quelque chose de frappant. C'est-à-dire que c'est une irruption sur la scène publique d'une image, d'une archive, de quelque chose d'autre que justement ce qu'il y avait avant. Donc je voulais quand même redonner ça, cette question. Donc dans ce processus de localisation, il y a un moment, c'est celui-là, et puis mais il y a le moment d'aujourd'hui. Donc comment aujourd'hui le penser ? Et notamment avec ces questions qu'évoquait aussi Franck aujourd'hui de l'argent, de la puissance financière, d'être confronté à ça, d'être confronté à une économie et à une forme de ce qu'on appelle globalisation aujourd'hui, qui est quand même extrêmement violente et extrêmement brutale. Mais extrêmement, il y a un assaut sur les sciences sociales, sur les humanités partout, c'est-à-dire justement sur ce dont on parle. Sur la manière d'écrire d'autres choses. Donc comment on pense ? Parce que souvent, on est quand même là, on est très bien, on est à béton salon, il n'y a pas du tout de hordes dehors qui nous attendent pour nous taper dessus, ou je ne sais pas quoi. Je veux dire, c'est tant mieux d'ailleurs, c'est tant mieux. Mais il faut que justement on profite de ce temps de tranquillité pour se poser des questions difficiles et ne pas simplement se dire comment... On est formidable, parce que nous sommes formidables. Vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Bon, donc, mais pour moi, c'est toujours un petit peu. Je suis tellement frappée par aujourd'hui par la violence qui se qui se déchaîne sur le monde, et comment, et la question de cette décolonisation, qui est à la fois de faire revivre ces récits et de faire revivre ces personnes qui gardent des mémoires dont nous aurons besoin, dans un moment où, de toute façon, on assiste à des destructions générales, pas de peuple, mais aussi de la terre, c'est-à-dire dans un système qui dit que tout est infini, que c'est infini, qu'il n'y a pas de limite à la croissance, au développement, et que nous savons que nous vivons dans un monde fini, puisque cette femme, Safia Kouassi, elle parle de la mort, de ce qui va se terminer, et de qu'est-ce que nous faisons de ces archives, celles qui peuvent être sauvées, mais celles qui ne peuvent pas être sauvées, non pas parce que nous n'avons pas la volonté de les sauver, mais parce que nous ne pouvons pas. Je veux dire, c'est comme tu disais, on fait ce qu'on peut, et on ne peut pas faire. Donc comment contribuer à la décolonisation aujourd'hui face à vraiment à ces forces, c'est-à-dire ne pas oublier qu'il y a des forces contraires, très organisées, extrêmement organisées, avec d'énormes moyens idéologiques, financiers, et que à ça il nous faut donc déployer encore plus fortement justement la manière de parler autrement et de développer, de se saisir de l'archive, de la mémoire pour développer un autre vocabulaire et une autre manière, un autre discours. Voilà, contribuer à la décolonisation des savoirs. Merci.